Actualités régionales.
Événements locaux.
À qui le tour ?
Avec Rémi Torroella.
Madame, monsieur, bonjour. Émission spéciale. Imaginez la fibre optique pour tous, pour tous les habitants du pays Midi-Quercy. Imaginez des transports en commun réguliers et électriques qui sillonneraient notre territoire. Imaginez une piscine olympique à Caussade, un zénith à Nègrepelisse, un cinéma, un TGV qui passe. Imaginez une manne financière qui permette à notre territoire un développement spectaculaire pour des impôts quasi nuls. Imaginez un site d'enfouissement de déchets nucléaires à Caylus, à la place du camp militaire. L'ouverture d'un centre de stockage de déchets FAVL, faible activité à vie longue, est fixée par la loi de programme du 28 juin 2006. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a été mandatée par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire pour lancer un appel à candidature afin d'identifier des sites susceptibles d'accueillir un centre de stockage de déchets radioactifs. Ce sont 3000 courriers qui ont été envoyés aux maires des communes concernées. 33 d'entre elles sont en Tarn-et-Garonne, situées sur les cantons de Caylus, Saint-Antonin, Caussade et Montpezat-Quercy. Agenda 21, Grenelle de l'environnement, charte de développement durable, crise du pétrole. François Fillon l'a dit, l'énergie nucléaire est une des réponses principales à la crise pétrolière. Mais qui dit nouvelle EPR dit nouveaux déchets. Il faut bien en faire quelque chose, les mettre quelque part. Il existe 1000 sites de stockage en France. Alors pourquoi pas ici? Pourquoi pas chez nous? Hein? Pourquoi pas? On va poser cette question aux personnes qui sont invitées pour cette émission spéciale. Il y a autour de la table Christian Maffre, maire de Caylus. Bonjour Christian Maffre.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Parlez bien dans le micro s'il vous plaît.
Ça pourrait aller un petit peu mieux, mais à part ça, oui, ça va. Oui. Je suis grippé, c'est ce que je voulais dire.
Il y a avec nous Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin-Nobleval. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Parfaitement bien.
Bon, vous n'avez pas de bus électrique encore?
Ça viendra peut-être, mais pas pour l'instant.
Léopold Viguier, conseiller général de Caylus, est avec nous. Bonjour Léopold Viguier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, on a toujours le moral.
Devrait se joindre à nous d'ici la fin de cette émission Jean-Paul Rénal, conseiller général de Saint-Antonin-Nobleval, Jean Cambon qui est coincé dans les embouteillages entre Toulouse et Montauban. S'il n'arrive pas jusqu'à nous, on lui passera un coup de fil, mais je pense qu'il devrait nous rejoindre d'ici 20 petites minutes. Et Raymond Massip qu'on joindra au téléphone puisqu'il est maire de Montpezat, conseiller général. Il est à Paris actuellement, donc on lui passera un petit coup de fil pour qu'il puisse participer à nos débats. Claude Deveux, animateur politique de CFM et membre du conseil de développement du pays Midi-Quercy, animateur de ce conseil de développement, est avec nous par téléphone. Bonjour Claude Devezin.
Bonjour Rémi, bonjour messieurs les maires et conseillers généraux.
Vous allez bien?
Oh, je vais tout à fait bien.
Et avec nous, pour lancer nos conversations, Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l'ANDRA, cette fameuse agence mandatée donc par le ministère de l'écologie et du développement durable pour la recherche de ces sites potentiels. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Claude Dupuis, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Alors, merci d'être avec nous ce soir pour commenter cette actualité brûlante qui fait beaucoup parler dans nos régions, qui est cette recherche que vous avez lancée pour un site potentiel pour des déchets nucléaires. Est-ce que déjà, si vous voulez bien, pour poser le décor, est-ce que vous pouvez nous présenter cette recherche, d'où elle part ?
Oui, effectivement. Donc, à la demande du Parlement, enfin, l'idée, au départ, c'est quand même une demande du Parlement exprimée dans la loi du 28 juin 2006 de trouver des solutions de gestion à long terme pour tous les types de déchets radioactifs. Aujourd'hui en France, donc nous connaissons bien l'inventaire des déchets présents en France et nous connaissons même la production future de ces déchets, hein, puisque les réacteurs sont connus et les activités sont connues. Nous avons des solutions pérennes pour les déchets à vie courte et ce sont les centres que nous exploitons dans l'Aube. Nous avons des recherches en cours pour trouver des solutions de gestion pour les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue. Ça, c'est le laboratoire de recherche à la limite de Meuse-Haute-Marne. Et en fait, il y a un type de déchets pour lequel nous n'avons pas encore de solution de long terme, c'est les déchets de faible activité à vie longue, qui sont des déchets qui sont de nature pratiquement historique puisqu'ils sont déjà produits ou dont la production va s'arrêter.
D'accord. Et donc, vous recherchez des sites d'enfouissement. Pour le moment, comment sont c'est des sites de stockage, c'est ça uniquement?
Voilà. Alors, parce que bon, alors la loi de 2006 précise tous les termes, mais on parle d'entreposage quand la solution est transitoire, et ce sont les 1000 sites que vous citiez. Mais en fait, on parle de stockage quand la solution est définitive. C'est-à-dire, là, on a mis les déchets pour, on les a enterrés, on les a stockés pour pas aller les rechercher, quoi. Hein. Donc, c'est des solutions définitives. Et on n'a pas l'intention d'aller récupérer les déchets. Donc, pour déterminer la nature du site que nous cherchons, en fait, nous nous calons sur les orientations de sûreté qui sont définies par l'autorité de sûreté nucléaire, autorité indépendante, qui, en fait, précise des grands objectifs de sûreté par rapport à la nature des déchets radioactifs. Elle vient de publier sur son site internet les grandes orientations. Et s'agissant de ces fameux déchets de faible activité à vie longue, alors vie longue, ça veut dire quand même il y a des radioéléments qui peuvent dont la durée de vie va durer plusieurs milliers d'années. Hein. Donc ça court, demande quand on dit, des solutions, oui.
Quand on dit courte ou moyen terme, c'est quoi? C'est 30 ans, c'est ça? De 30
alors,
ans
voilà,
à,
c'est ça. Enfin,
à un siècle ou deux, quoi.
La déchet qu'on appelle de vie courte, c'est les déchets qui perdent leur radioactivité, enfin dont la radioactivité est divisée par deux au bout de 30 ans.
D'accord. Voilà. Donc là, c'est donc, pas le cas pour les déchets qui nous concerneraient ici en Tarn-et-Garonne. Hein.
Oui, donc c'est non, tout à fait. Là, les ordres de grandeur, nous devons trouver un site qui puisse confiner la radioactivité de ces déchets pendant 10 000 ans, au moins 10 000 ans, quoi, avec une démonstration de sûreté robuste à l'appui.
Alors oui, ça veut dire qu'il faut que ce soit dans un coin, j'imagine, où il n'y a pas de tremblement de terre et ce genre de choses, c'est ça? C'est pour ça qu'un site comme le Pays Midi-Quercy est sélectionné au départ, c'est quoi? C'est parce que le sol est stable?
Alors, en fait, oui. Voilà, alors, il faut bien que tous les maires qui nous entendent me comprennent bien. En fait, la présélection que nous avons opérée, nous, à l'ordre aujourd'hui, est une présélection purement géologique que nous avons faite en nous appuyant sur notre connaissance géologique de la France. Hein. Nous avons travaillé avec le bureau de recherche en géologie minière, hein, le BRGM, qui détient en France la connaissance géologique du territoire. Et en fait, comme il s'agit de déchets de faible activité à vie longue, nous sommes à la recherche d'une couche peu perméable, grosso modo de l'argile, hein, qui se situerait à faible profondeur et avec une épaisseur suffisante, donc au moins une cinquantaine de mètres. Voilà. Puisque, je le rappelle, ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est de confiner les déchets pour les isoler de l'homme et de l'environnement pour des longues échelles de temps. Et pour faire ça, en fait, nos concepts de stockage combine à la fois le rôle du colis de déchets, parce que le colis de déchets protège déjà, enfin confine les radioéléments. Après, il y a les ouvrages de stockage eux-mêmes, qui associent du béton, des métaux, des choses comme ça. Et puis, il y a cette fameuse couche d'argile qui va confiner la radioactivité pendant suffisamment longtemps. Je rappelle quand même que ces déchets qui sont radioactifs ont quand même une propriété qui les distingue des déchets toxiques classiques, c'est que leur radioactivité décroît dans le temps. Donc, degré de nocivité décroît dans le temps, ce qui n'est pas le cas de plomb ou des choses comme ça. D'accord. Qui sont
mais dans le temps, dans le très longtemps quand même, hein, on est d'accord.
Oui,
hein.
Ça prend longtemps. Oui,
tout à fait.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État charge un établissement public de s'occuper de tout ça, puisque en fait nous sommes un peu le bras armé de l'État et seul l'État peut s'engager sur des si longues périodes de temps. D'accord.
Lors des présélections, vous n'êtes pas venu sur le terrain en fait, hein, c'est ça?
Pas
hein
du tout.
D'accord.
Nous avons travaillé, et c'est pour ça que dans la recherche que nous voulons mener, hein, qui se veut ouverte, transparente et progressive, nous avons besoin, dans un premier temps et d'ici la fin de l'année, de voir si des communes ou des maires seraient intéressés pour nous accueillir, pour faire des investigations locales. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une connaissance biblio et qui peut être très hétérogène. C'est-à-dire, dans les secteurs où il y a eu même de la prospection pétrolière, nous avons une bonne connaissance, parce qu'il y a déjà eu des forages et des choses comme ça. Mais il y a des zones où la connaissance est très macro, ouais. C'est-à-dire qu'on a une connaissance, pas une vision un peu générale, mais en regardant sur place, on trouvera peut-être au moment des forages.
Donc là, pour le moment, voilà, il y a des hypothèses.
C'est un travail de bureau pour l'instant. Voilà.
Christian Maffre, la question est directement posé. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir l'Andra pour pousser plus loin ces hypothèses à Caylus, donc maire de Caylus?
À question simple, réponse simple. Non.
Non. On fait peut-être un petit tour de table. Vous n'êtes plus maire de la Capelle Livron, Léopold Viguier, mais vous en êtes le conseiller général. Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'on pousse un peu plus loin ces études?
Mais moi, je voudrais tout d'abord poser une question à madame, là.
Marie-Claude Dupuis, oui.
Oui. Lui dire, bon, mais d'accord, elle fait un travail, et elle est payée, je dirais, entre guillemets, pour faire un certain boulot, mais si elle est prête à accepter chez elle, éventuellement, ce genre d'installation.
Moi, j'habite en région parisienne, donc là, c'est pas possible, mais ce que je peux vous dire, c'est que les salariés de l'ANDRA visent sur les sites qu'ils exploitent, hein, donc...
Pourquoi c'est pas possible en région parisienne? C'est une question de densité de population?
Non, déjà la géologie s'y prête pas.
La géologie s'y prête pas.
c'est toujours pareil. Hein. Donc il y a un problème de géologie, puis après il y a d'autres critères qui rendent compte. Mais là, de toute façon, il y a pas. Mais je voudrais quand même. On respectera l'État l'a dit, le ministre d'État l'a dit. On respectera le choix et le volontariat des maires. Mais je ne voudrais pas que les décisions se prennent sur la base de faux arguments.
Non, mais alors justement,
on peut ne pas avoir envie d'accueillir de tels stockages, mais il ne faut pas imaginer quand même que parce que l'ANDRA s'implante quelque part, c'est la désertification, on pollue l'environnement, etc. Ça, je ne peux pas laisser dire ça, et l'expérience que nous avons aujourd'hui prouve le contraire.
Alors, on ne l'a pas encore dit, mais j'espère bien qu'ils vont le dire et que vous pourrez leur répondre, Marie-Claude Dupuis. Je me tourne donc vers le maire de Saint-Antonin-Nobleval, alors Gérard Hagan. Est-ce que vous, l'idée de pousser plus loin ces recherches sur un site d'enfouissement potentiel à Saint-Antonin-Nobleval, est-ce que vous répondriez oui à ça?
Je répondrai non, bien entendu, puisque Saint-Antonin est une spécificité départementale sur le plan environnemental. Et je vois bien que là, les seules études qui ont été mobilisées ne sont que des études bureaucratiques. Et donc, tout à l'heure, je développerai, bien entendu, tous les points forts de Saint-Antonin, et surtout sur ses qualités environnementales et les désirs de l'Europe de voir ces environnements-là protégés particulièrement.
Et Jean-Paul Reynal, qu'est-ce que vous en pensez en tant que conseiller général du même secteur?
Écoutez, je pense que le sous-sol donc de notre région, et où nous sommes vraiment en zone karstique et calcaire, est un véritable fromage de gruyère. Nous avons d'ailleurs fait appel au BRGM pour effectuer le forage de la source d'eau minérale, et le BRGM connaît très bien le sous-sol de notre terroir, et ça m'étonnerait. Je pense que les couches d'argile de l'IAS ne sont pas suffisantes dans notre région pour permettre l'enfouissement de déchets radioactifs.
Vous le pensez, mais on le sait pas vraiment. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils viennent vérifier. Est-ce que vous auriez quelque chose contre?
On peut se baser sur les études de BRGM que nous tenons à leur disposition, qui connaissaient très bien le sous-sol de notre région, hein, et de notre vallée, de notre gorge d'Aveyron, absolument.
Je sais, Claude Devezin, vous êtes toujours là. N'hésitez pas à intervenir aussi, hein, dès que vous le souhaitez.
Est-ce que vous me posez une question?
En tant qu'habitant, peut-être, de cette commune et membre du CDD, qui organise une assemblée extraordinaire jeudi soir.
Alors, le Conseil de développement du pays est en pleine période de renouvellement et de recrutement. et je dirais, ça tombe presque à point pour faire une démonstration de ce qu'est, de ce que sait faire, de ce que peut faire le Conseil de développement. Et donc, la quatrième réunion d'information et de recrutement avait lieu et a toujours lieu à 20h30, jeudi prochain, à Verfeil, à la salle des fêtes, et elle se prolonge à partir de 21h en séance plénière du Conseil de développement, en séance plénière élargie. Le Conseil de développement ayant la possibilité de se saisir, c'est évidemment une question dont il s'est saisi et qu'il examinera comme il doit le faire strictement par rapport à la charte de développement durable du pays Midi-Quercy. Charte de développement durable qui est ce l'aune à laquelle le Conseil de développement doit mesurer, examiner les projets qui lui sont proposés ou qu'il veut suggérer. C'est par rapport à ce document qui s'oppose à tous, puisque c'est avec ce document que le pays a été accepté, entériné par l'État, par la région, et obtient des subventions européennes. Donc c'est par rapport à ce document que le Conseil de développement aura à se prononcer. Alors il va se saisir jeudi prochain pour organiser son travail. Et puis, il va effectuer ce travail en un mois et demi pour donner un avis par rapport à cette charte de développement durable.
Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l'ANDRA, est-ce que vous pensez qu'il est compatible, qu'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires peut être compatible avec une charte de développement durable ?
Personnellement, je le pense. Ouais. Et nous travaillons sur les sites sur lesquels nous sommes implantés, que ce soit dans l'Aube ou dans la Meuse, enfin Haute-Marne, là, nous travaillons avec des associations de protection de l'environnement local pour faire de la surveillance de l'environnement. Nous avons une zone Natura 2000 juste à côté de nos sites. Dans l'Aube, nos sites sont implantés au milieu d'une forêt. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes, ANDRA, signé la charte des entreprises et établissements publics ayant une vraie politique de développement durable. Et nous travaillons sur un observatoire pérenne de l'environnement dans le cadre du projet d'haute activité à vie longue. Enfin, nous sommes vraiment sous tutelle du ministère chargé de l'environnement et du développement durable et nous inscrivons complètement dans cette politique. Alors après, bien sûr, on peut pas, à partir du moment où il y a un site de déchets radioactifs, il faut l'intégrer dans un projet de territoire. C'est ce que nous proposons aux maires qui voudront bien nous accueillir. Je dis pas qu'on pourra aller partout, hein. Il y a forcément des contraintes de surface qui feront qu'on ne pourra pas aller partout, même si les zones ont été identifiées. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne nous rejette pas trop vite et que certains acceptent de dialoguer avec nous.
Alors, M. Maffre, vous voulez bien dialoguer ou...
Ah oui,
Christian Maffre, ouais.
Je veux tout bien dialoguer.
Ouais.
En fait, je vais vous dire moi ce qui m'a chagriné un petit peu et quel est mon état d'esprit. Moi, je suis élu depuis 6 ans et j'assiste très, très régulièrement à, comment dirais-je, une fuite des services au public, etc. J'ai un cas militaire, moi, de 5500 hectares sur ma commune. Et comme par hasard, ce cas militaire va faire, a priori, les frais d'une certaine restructuration. Et c'est le fait du hasard en fait, hein, certainement. J'ai quelques raisons de croire donc que ce cas-là va beaucoup de personnel va disparaître. Et le même jour que j'apprends ça, j'apprends également qu'il y a des déchets éventuellement qui pourraient venir sur notre région. Donc prenez-moi, je suis qu'un être basique, ville, je comprends pas tout. Par contre, j'essaye de faire un petit rapport. Comme je disais, est-ce que c'est un lot de consolation? Est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive comme ça, une manne? Voilà. Donc une manne, enfin.
Ouais.
On m'a dit que c'était éventuellement une manne parce que j'avais pas de taxes professionnelles avec l'armée, puis je pourrais peut-être éventuellement en avoir avec des déchets. Ce que j'observe, pour être plus sérieux, c'est que on a effectivement 5500 hectares qui appartiennent à l'État et que effectivement, si ce camp militaire devait à terme disparaître. Ce serait
une formalité administrative de moins pour l'État,
effectivement,
peut-être.
Il y aurait les enquêtes publiques seraient peut-être un petit peu moins compliquées, ou etc. Voilà.
On va saluer au passage l'arrivée parmi nous de Jean Cambon, président du pays, conseiller général, maire de Nègrepelisse. Bonjour Jean Cambon.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Comment avez-vous pris cette nouvelle que l'ANDRA donc recherche un site potentiel d'enfouissement de déchets nucléaires sur le pays Midi-Quercy ?
Écoutez, j'étais très surpris, et j'ai fait le parallèle entre deux problématiques. La problématique de l'eau, sur laquelle il y a 10 ans que nous sommes en train de définir des périmètres de protection pour les captages d'eau potable. L'État ne cesse de monter le niveau qui nous permettrait, il faudrait aller dans le Tarn, dans le Lot, pour arriver à protéger les sources d'eau potable de la zone karstique. Et il n'y a pas de contrainte assez forte qui pratiquement devrait empêcher l'agriculture sur des milliers d'hectares, relever parcelle par parcelle, de telle manière à savoir quelle moindre pollution pourrait polluer les nappes du sous-sol karstique. Et on se bat depuis 10 ans pour essayer d'amener l'État un peu de modération dans ses demandes. Et à côté, j'entends cette demande où, sans aucune étude, on sollicite les maires dans un rapport en leur faisant miroiter l'intérêt financier. Vous-même, vous avez repris, j'ai écouté en voiture votre présentation, l'intérêt financier que pour avoir des maires pauvres, en leur disant, mais écoutez, vous êtes pauvres, pour beaucoup d'autres choses, vous avez des contraintes très fortes parce que vous devez protéger l'environnement. Mais là, voyez, vous allez gagner de l'argent, les études ne sont pas faites, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais soyez candidats. et rentrer dans un processus qui pourra vous amener à accepter les produits radioactifs. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est qu'on sollicite les communes. Tout est fait dans ce pays pour que les décisions soient collectives, collégiales, et devraient concerner la zone de pollution possible de l'installation. Au lieu de quoi ? Aussi bien une petite commune de 1000 hectares va décider de la pollution éventuelle. Je sais bien qu'il n'y a pas de pollution, c'est bien, hein, j'ai entendu la dame, Madame Dupuis, tout à l'heure, il n'y a aucun risque, les sites nucléaires ne présentent aucun risque, tout le monde, tout est merveilleux. Bon, enfin, la probabilité des risques, c'est quelque chose qui existe. Et une petite commune va pouvoir être candidate, alors même que la communauté de communes à laquelle appartiennent ne donne pas de point de vue, que le département ne donne pas de point de vue, que le pays ne donne pas de point de vue, alors que toutes les décisions, Monsieur Devezin l'a dit tout à l'heure, alors que toutes les décisions que nous avons prises, on nous demande, nous, petits élus ruraux, une grande cohérence. Et que toutes nos décisions doivent être cohérentes. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est incohérent, qui est proposé par l'État, et presque on ferait figure de gens d'arrière-garde en l'acceptant. Je trouve la démarche qu'ils aient proposée surprenant.
Pourtant, c'est ça qu'on permettra de répondre et de reprendre la parole à un moment donné.
Bien sûr, j'allais vous la donner, Marie-Claude Dupuis, parce que justement, un des slogans entre guillemets de l'ANDRA sur cette préparation, c'est que ça se fasse dans une complète démocratie et au su et au vu de tous.
Tout à fait. Non seulement, je le revendique comme slogan de l'ANDRA, mais en plus, c'est une exigence de mon ministre de tutelle. Alors, pour répondre sur les trois points évoqués par M. Campon, notre démarche est peut-être assez innovante en France et je peux comprendre qu'elle surprenne. Dire qu'on a entamé notre démarche sans études, ça c'est pas vrai. Nous l'avons fait sur la base, enfin ça fait plusieurs années que l'ANDRA travaille sur ce projet-là et c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avions fait un travail en bureau pour la recherche de sites du point de vue géologique, ça ne veut pas dire que nous avons fait un travail bureaucratique. Hein. Ce sont des chercheurs et des scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Sans études, non, parce que nous avons quand même une bonne idée de nos concepts. Mais ce qui est assez innovant dans la démarche, c'est que nous avons voulu la mener sur la base d'un appel auprès des communes. Il aurait pu y avoir une alternative qui était que celle où l'ANDRA continuerait à travailler dans ses bureaux au siège avec ses partenaires scientifiques, aurait déroulé le projet jusqu'au bout, aurait essayé à partir de ça de voir où en France on pouvait trouver la meilleure géologie, et puis après d'arriver dans la commune cible et essayer d'expliquer au maire que maintenant il n'a plus qu'à accepter parce que c'est le seul endroit. On n'a pas voulu cette démarche-là. On a préféré avoir un premier niveau d'étude avec la connaissance de la carte de la géologie de la France telle que le PRGM la connaît, et puis après faire un appel, voir s'il y a des communes intéressées. Et après, aller voir sur place, on se donne 2 ans, entre fin 2009 et 2010, pour faire des investigations sur site, faire des forages, discuter avec les populations locales et les élus, bien sûr, essayer de construire un projet de territoire. Ça, c'est notre proposition. Bon, premièrement,
madame, si vous permettez, sur quelle base aujourd'hui la commune va être volontaire ? J'ai lu le rapport que vous avez envoyé à Mme le préfet. Le rapport.
Non, mais moi, c'est...
Attendez, madame.
Enfin, le dossier.
Rapport...
Avez-vous vu notre dossier ?
Non, je voudrais savoir. J'ai vu votre dossier j'ai lu votre dossier.
Non, pas celui envoyé par le ministère, où il y a quelques fiches. Nous venons d'envoyer. Alors, le courrier est parti auprès des maires vendredi soir. Donc, il commence à arriver dans les communes, mais nous avons fait un dossier à destination des collectivités locales.
Si les dossiers que vous envoyez à Mme le préfet ne sont pas regardés, qu'il y a d'autres dossiers à regarder, effectivement,
Il est beaucoup plus détaillé. Il est détaillé avec des photos. Enfin, en fait, on détaille l'information qui a été transmise par les préfets. C'est le dossier de l'enfant.
Peut-être, mais aujourd'hui, si un maire est candidat, il va l'être pour des raisons économiques. Admettez que pour un dossier où les risques sont relatifs à la santé, où l'image qui va être donnée par le pays Midi-Quercy, tous les communes, est une image contradictoire avec celle qu'on essaye de développer du point de vue touristique, du point de vue économique. Imaginez l'implantation d'un site d'enfouissement, c'est une image qui est contradictoire. Quel que soit le sujet, quelqu'un qui fait de la communication sait qu'on ne peut pas développer 2 images contradictoires. Or, c'est sur la base de laquelle aujourd'hui vous souhaiteriez que les démarches... Moi, je ne trouve pas que la démarche qui serait cohérente serait été de dire d'abord joindre une carte relativement précise, indiquer en quoi des sites calcaires sont considérés comme des sites argileux, Vous savez, nous, nous ne sommes pas des spécialistes de géologie, nous sommes élus par la population.
À faible profondeur, hein, c'est parce qu'elle n'est pas forcément... La couche que nous cherchons, elle se situe entre 15 mètres et 200 mètres de profondeur.
Non, d'accord, mais nous, nous qui sommes des gens qui sont ignorants, entre 15 mètres, nous voyons du calcaire, nous ne voyons pas de l'argile.
Hein, jusqu'à donc... 200 mètres. C'est le travail qui a été fait avec le bureau de la... nous, on vise le LIAS, effectivement, formation
écoutez, mais
de
nous aussi, Monsieur les maires qui sont ici, il y a la source du Cande, il y a la source... Tous les maires ont fait faire au BRGM, justement, des études. Nous avons des connaissances géologiques. Vous n'êtes pas venu les chercher parce que ça vous intéresse pas encore.
Non, non, mais écoutez, on pourra confronter...
Non, mais oui, enfin, j'espère que non, mais...
Apparemment, la source est la même, c'est le BRGM, de toute manière.
Oui, nous, on est prêt à aller chercher les couches, donc je ne sais pas si ce que au niveau des calcaires, on doit pouvoir trouver une couche géologique à moins de 200 mètres.
Mais vous n'avez pas des régions où il n'y a que de l'argile, plutôt d'aller chercher d'abord dans le calcaire.
Si vous permettez, je voudrais réagir par rapport aux histoires, enfin vos deux remarques, et notamment celle sur les risques, parce que vous venez de réinsister là, sur ce sujet-là. Effectivement, vous dites, et ça, je peux pas dire le contraire. Un maire va se porter intéressé plutôt pour voir, enfin parce qu'il peut envisager d'avoir un projet de développement sur son territoire basé autour d'un projet tel que le nôtre. En ce qui concerne les risques, nous avons préparé des concepts de stockage qui permettent de répondre aux objectifs de sûreté de l'autorité de sûreté. Quand on travaille sur un projet de stockage de déchets radioactifs, on sait bien qu'il y a deux grands volets à traiter. Les risques, et on les sous-estime pas, on les ignore pas. L'ANDRA a plus de 30 ans d'expérience, hein, elle exploite des sites depuis longtemps, donc les risques, on les sous-estime pas, on les maîtrise. Et il y a un certain nombre de choses à faire pour les maîtriser, ça c'est notre travail. Et puis on sait bien que pour être accepté aujourd'hui dans une commune, on voit bien qu'en France on n'arrive même plus à ouvrir une décharge, donc dès qu'on parle de déchets radioactifs, on voit bien que c'est encore un peu plus compliqué. On voit bien qu'une communauté de communes ne peut nous accepter que dans le cadre d'un projet de territoire intégré, bon, et qui correspond à la vision qu'ont les élus locaux de développement de ce territoire. C'est pour ça qu'avant d'aller de pousser très loin des recherches techniques sur un stockage imaginaire, on a préféré d'abord aller sur des zones où des élus accepteraient de nous écouter et de nous accueillir, ne serait-ce que pour faire des investigations.
Sur quelle base ils accepteraient ?
Parce qu'il y a des... Mais,
pour
y a
pour
en
l'intérêt
France,
économique et financier que ça représenterait.
Mais parce que... Enfin, je vous invite, quoi qu'il advienne...
Non, mais répondez-moi. Hein, répondez-moi.
Oui,
aujourd'hui,
mais bien sûr,
sur quelle base...
Mais bien sûr,
voilà,
mais bien sûr.
C'est, voilà, d'accord, on est d'accord.
Mais c'est pas condamnable.
Je vous invite
à venir voir nos centres. Je vous invite à visiter nos centres et vous verrez que l'ANDRA respecte l'environnement et qu'accueillir un site de l'ANDRA, c'est pas forcément honteux. Je dis pas que ça s'intégrerait dans vos territoires. Je dis pas que ça correspondrait à vos plans de développement de territoire. Mais accueillir un site de déchets radioactifs gérés par l'ANDRA, ben j'ose espérer que ça ne doit pas être considéré comme honteux, et heureusement qu'il y a des maires. Vous verrez dans notre dossier, il y a des témoignages de maires.
On est obligé de faire une pause parce qu'on est, on a dépassé même un petit peu l'heure des informations. Est-ce que vous pouvez encore rester avec nous? Est-ce qu'on peut encore abuser de votre temps, Marie-Claude Dupuis?
Oh, bah, volontiers.
Alors, je vous donne rendez-vous dans 5 minutes après les informations. À tout de suite.
Tu veux du lourd? Tu veux du lourd? Quand c'est bon, CFM,
émission spéciale suite. Nous sommes en train de parler de cette annonce de candidature pour un site d'enfouissement de déchets nucléaires potentiels ici en Tarn-et-Garonne. 33 maires de 33 communes situées sur les cantons de Montpezat-Quercy, Saint-Antonin, Caussade et Caylus peuvent faire acte de candidature pour que l'ANDRA, l'organisme qui a été mandaté par le ministère de l'écologie du développement durable, pour que l'ANDRA vienne y faire des recherches un petit peu plus poussées en vue d'y enfouir donc des déchets nucléaires de faible intensité mais à la vie longue. Hein, je ne sais plus comment on les appelle, FAVL.
En fait, c'est les initiales de
faible activité
à vie longue.
Voilà. Merci d'être encore avec nous, Marie-Claude Dupuis, vous êtes la directrice générale de l'ANDRA. Autour de notre table ici, Christian Maffre, maire de Caylus, est toujours là. Gérard Hagan, maire de Saint-Antonin. Léopold Viguet, conseiller général de Caylus. Jean-Paul Rénal, conseiller général de Saint-Antonin. Et Jean Combon, maire de Nègrepelisse, président du Pays Midi-Quercy, conseiller général, qui a été une cheville ouvrière dans cette charte de développement durable sur laquelle laquelle s'appuie le pays pour se développer aujourd'hui. On devrait passer un coup de fil d'ici la fin de cette émission à Raymond Massip. Également, et puis à Stéphane Mimbourg, qu'on appellera quelque part là-bas dans l'est de la France pour qu'il nous parle lui de son expérience. Donc, qu'est-ce qui est en jeu en fait ? C'est la création d'emplois, c'est d'avoir de l'argent sur des territoires qui sont un petit peu en désertification, où on a du mal à se développer, où on a du mal à avoir des moyens de communication efficients, où on a du mal à avoir des services publics. Finalement, par l'intermédiaire d'un site d'enfouissement, un maire d'une petite commune pourrait voir sa commune vraiment se développer. Mais alors, est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est pas au détriment de la commune voisine, finalement, voire du département, voire de la région tout entière ? Comment est-ce que vous prendrez vos décisions, messieurs les maires et les conseillers généraux sur vos communes ? Ça va se passer uniquement en conseil municipal ? Vous allez faire des référendums ? Vous allez comment est-ce que vous allez faire, monsieur Cambon ?
Mais en fait, si un maire, et j'ai entendu les maires qui sont autour de cette table, ne le souhaitent pas, ils sont maîtres de l'ordre du jour, ils ne proposeront pas à leur conseil municipal.
D'accord.
La question se pose si un maire y est favorable. Alors, dans ce cas-là, il doit proposer son projet, les études éventuelles ou les pré-études à son conseil municipal qui, éventuellement, pourrait accepter. Mais ça poserait le problème de la responsabilité d'un maire par rapport à un territoire qui est vaste et ce territoire n'ayant rien à dire. Et dans le cas de la transparence, de la démocratie dont on nous rabat les oreilles, je me demande quel sens ça pourrait avoir.
Et pour une période tellement longue que plus personne pourrait revenir en arrière, bien entendu, hein, avec les conséquences que l'on sait. Par exemple, madame, vous dites que vous prenez toutes les précautions nécessaires concernant la sécurité de ces déchets. Les derniers incidents de la Hague font apparaître quand même quelques soucis.
Il y a eu un affaissement.
Alors, vous dites effectivement que tout est prévu, mais quel est votre regard sur ces milliers d'années pendant lesquels ces déchets seront enfouis ? Est-ce que vous pouvez garantir d'ores et déjà que ces déchets n'auront pas d'incidence sur cet avenir ?
On peut prendre l'exemple de la Hague, puisque vous le citez. Donc vous parlez du centre de surveillance, du centre de stockage de la Manche, qui est effectivement sur la commune de Digulville, mais tout à côté du grand site d'Areva à la Hague. Et effectivement, c'est un site qui a été ouvert en 69. L'Andra n'existait même pas encore à l'époque. Et c'est le premier site de stockage de déchets qui a été ouvert en France au moment où il a été dit, l'État a décidé de ne plus immerger les déchets radioactifs en mer. Donc, dans l'urgence, disons que c'était le commissariat à l'énergie atomique à l'époque, a commencé à stocker les déchets-là. Mais c'était le tout début de l'histoire, d'abord d'une part du nucléaire, d'autre part des déchets nucléaires. L'autorité de sûreté nucléaire n'existait même pas. Et on peut pas. Enfin, à l'époque, ça correspondait quand même à une avancée très très grande en politique et de choix français de gérer mieux les déchets. En commençant par plus les jeter dans la mer. Et la France a été un des premiers pays à prendre cette décision-là. Alors, c'est sûr qu'on ne referait pas le centre de la Manche qu'on a fait à l'époque en 69. Et l'Andra a pris la gestion de ce centre en 79. Et tout le monde reconnaît que la gestion de ce centre a été considérablement améliorée. Même si on a des problèmes, je veux bien y revenir aujourd'hui. On a des problèmes à gérer, mais qui sont connus et qui sont liés à l'histoire. D'ailleurs, le centre qui a pris la suite de l'exploitation du centre Manche, maintenant c'est celui qui est situé sur la commune de Soulaine dans l'Aube, a tiré profit de l'expérience du centre Manche et on a amélioré ce qui devait être amélioré. Alors, sur le centre Manche, ce qui fait justement, enfin les problèmes, effectivement, il y a eu des tassements parce que au début de l'histoire du centre, il y a des déchets, les fûts ont été posés sur le sol et donc il y a une protection parfaite avec de la terre, des membranes bitumineuses, etc. Enfin, il y a tout un système de couverture pour l'isoler et protéger l'environnement, mais c'est pas la couverture pérenne.
On imagine bien que vous allez tirer de toute manière effectivement les conclusions de comme il faut et que ce sera beaucoup mieux, mais combien ça va rapporter à monsieur Cambon sur sa commune à Nègrepelisse?
On voit tous les jours des erreurs, des ingénieurs, des techniciens. Ouais. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que tout ce qui se fera sera pas frappé du sceau de l'erreur? Rien ne le dit. Les erreurs qui ont été faites.
parce qu'on surveille et qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Parce qu'il y a un engagement de surveillance sur la longue durée.
Le développement durable.
Au-delà de la démonstration.
Que des hommes et des femmes d'aujourd'hui s'engagent sur 10 000 ans pour leur territoire, ça ne me paraît pas être du développement durable, même si c'est envoyé par le ministère du développement durable.
C'est une question que j'avais dans mes tablettes et un auditeur nous la pose aussi. Combien ça rapporte à une commune, combien ça va rapporter à M. Cambon de voir le site d'enfouissement sur sa commune à Nègrepelisse et à 2500 habitants? Non, 4500, pardon.
En fait, nous avons choisi de lancer notre démarche sans avoir un chèque dans la poche à montrer au maire qui voudrait se déclarer intéressé. C'est-à-dire que nous préférons travailler sur un projet de territoire. Alors, ce que nous donnons comme exemple, c'est la taxe professionnelle que touche le centre. Ben, l'ordre de grandeur, c'est 1 000 000 d'euros de taxe professionnelle. Mais nous préférons parler de projet de développement de territoire de manière intégrée plutôt que de dire ça rapportera. Alors, par contre, on peut parler effectivement d'emploi, de
Alors, combien d'emplois ça crée?
Là, ce qu'on dit, c'est pour donc le calendrier, ça serait une demande d'autorisation pour 2013, pour une mise en service en 2019, 4 années de construction avec 100 de personnes et après 50 ou 60 salariés sur un peu plus de 20 ans d'exploitation. Mais et après, la surveillance.
Si je peux me permettre une comparaison, à Nègrepelisse, je viens de construire une maison de retraite, 9 millions d'euros. Ça crée 60 emplois. Et les employés devaient avoir 40 ou 50 au moins qui ont travaillé pendant un an et demi. Voilà le type de comparaison qu'on peut faire. Il ne faut pas non plus profiter qu'un maire est petit, que la commune ait des très petits budgets pour lui faire miroiter des choses qui sont alors des choses qui se font déjà en Midi-Quercy. La maison de retraite de Caylus, c'est quelque chose qui est du même ordre économiquement.
Si vous me permettez, ça me permettrait, votre réaction me permet de compléter la réponse sur pourquoi solliciter les maires. Nous avons bien conscience qu'un tel projet ne peut pas être porté par le maire d'une commune seule. On a bien conscience qu'il y a des communes qui vont l'entourer, que le département aura son mot à dire. Si nous avons souhaité orienter l'appel, adresser l'appel aux maires, c'est que c'est le droit du sol en France fait que ce sont les maires qui délivrent les permis de construire, et donc il est principalement concerné. Mais en amont, nous avons souhaité informer tous les présidents de conseil général, conseil régional, les députés, les sénateurs de cette démarche. Parce qu'on a bien conscience que quand on parle de projet de territoire, l'impact d'un tel stockage, qu'il soit positif ou négatif en termes d'image, dépasse la commune. Donc ça peut être effectivement qu'un projet débattu localement sur un territoire plus large.
Vous parlez de projet de territoire, nous en avons un, il faudrait encore voir comment votre projet de territoire qui viendrait se rajouter pourrait se coordonner. Mais j'ai envie de vous poser une question, vous qui nous proposez un projet de territoire. Votre projet de centre de création de centrales nucléaires, enfin d'activités liées au nucléaire, au fond, pourquoi lorsque vous concevez un établissement nucléaire, vous ne prévoyez pas la façon de stocker les déchets plutôt que ensuite venir après poser aux gens la question de participer à votre projet? Pour moi, le projet nucléaire, vous ne devriez pas avoir le droit de construire une installation nucléaire sans savoir comment vous allez ou stocker ou recycler ou détruire les déchets nucléaires. On aurait plus confiance en vous si dès l'origine du projet, ces choses-là étaient prévues.
Je peux intervenir?
Bien sûr, répondez directement.
Alors, moi ce que je voudrais, d'abord, toute activité industrielle, ou même agricole, quelle qu'elle soit, produit des déchets. Moi je ne connais pas peut-être en réfléchissant à en trouver, mais dès qu'il y a une activité industrielle, c'est le produit des déchets. Il y a, la question des déchets radioactifs est traitée par le Parlement depuis la loi de 1991, avec des grandes orientations de recherche. Il y a eu une nouvelle loi en 2006 pour trouver effectivement des solutions qui permettent de réduire et la quantité et la toxicité de ces déchets, mais jamais on ne pourra construire un réacteur de production d'électricité qui ne produit aucun déchet. Ça, c'est... Il y a des recherches en cours menées par le CEA qui vont permettre de réduire considérablement, mais imaginer une activité qui recycle totalement, ça c'est des rêves de fou. Je voudrais rappeler quand même que le statut de l'ANRA, nous sommes Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Nous sommes établissement public et les déchets, de toute façon, ils existent. Alors, particulièrement ceux dont nous parlons pour les projets, pour les déchets de faible activité à vie longue, puisque c'est peut-être pas inutile de préciser que pour une bonne part de ces déchets, il s'agit de déchets graphites qui sont aujourd'hui dans les centrales, qui sont du graphite qui a été irradié dans les réacteurs qui sont aujourd'hui arrêtés. Hein, c'est les premières centrales de production d'électricité à Bugey, Chinon et Saint-Laurent. Et puis l'autre moitié, ce n'est pas lié, ce sont des déchets qui ne sont pas liés à la filière électronucléaire, mais à l'industrie classique, qui, quand on extrait, par exemple, comme Rodia extrait des terres rares pour fabriquer des composants pour l'industrie automobile ou l'industrie électronique, il importe des minerais naturellement radioactifs, il en extrait les terres rares pour ses propres, pour l'industrie, et les minerais deviennent des déchets radioactifs qu'on ne peut pas remettre dans le circuit normal d'évacuation. Donc je voudrais quand même, et puis tout le monde bénéficie de l'électricité. Hein, donc nous, la mission de l'ANDRA, c'est de trouver des solutions sûres pour les générations suivantes, des déchets qui sont produits par ces générations-là. Et ça, je peux vous dire, ça c'est du développement durable.
Marie-Claude Dupuis, est-ce qu'il existe ailleurs en France aujourd'hui ou dans le monde des sites d'enfouissement de déchets nucléaires?
Alors, il y a un site d'enfouissement profond. Je préfère parler de stockage d'enfouissement parce que les installations de stockage de déchets sont des installations plutôt de haute technologie, mais c'est pas des trous dans lesquels on enterre les déchets.
Ouais, il y en a un bon millier à travers tout le territoire, hein, des endroits où juste on stocke.
On entrepose. C'est-à-dire, ouais. ça peut être un bâtiment sur une zone industrielle. Donc, dans le monde, il y a un stockage de déchets de haute activité, un stockage géologique de haute activité. C'est le WIB et c'est un stockage pour des déchets militaires. Tous les autres pays sont actuellement en train de travailler sur des sites. Les États-Unis viennent de déposer pour les premiers une demande d'autorisation de création d'un stockage géologique, toujours pour les déchets de haute activité. Et l'autorisation, en ce qui concerne les déchets de faible activité à vie longue, ce dont nous parlons ce soir, les Américains aussi viennent de recevoir l'autorisation d'exploiter un site, je ne sais plus dans quel état, aux États-Unis. Voilà. Mais des centres de stockage de déchets, il y en a quelques-uns dans le monde, oui.
Mais en France, il y en a pas, hein, pour le moment. Même Bure, c'est un laboratoire qui est plus profond.
À 500 mètres de profondeur, hein, voilà. Les recherches à Bure. Mais ça, c'est pour les déchets de haute activité.
C'est dire le temps de retour d'expérience que vous avez.
Non, mais on ne parle pas de la même chose. Là, vous m'avez posé la question, j'ai répondu pour les déchets de haute activité à vie longue. Ouais. Ça, c'est sur les déchets qui sont vraiment, comme on l'a dit, de très haute activité, beaucoup plus dangereux. Et là, on a le temps devant nous. Enfin, ils sont entreposés en toute sécurité à La Hague. Et nous cherchons des solutions pour préserver la sécurité des générations futures.
Alors, voilà. Nous avons avec nous, encore une fois, un Claude Devezin, vous êtes toujours là?
Oui.
Vous n'hésitez pas, hein, à intervenir quand vous le souhaitez. Stéphane Mimbourg, bonsoir Stéphane Mimbourg, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va?
J'ai trouvé vos coordonnées sur un site internet, site Bure, Zone Libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Bure, Zone Libre, pardon?
Alors, Bure, Zone Libre, c'est une association qui regroupe quelques centaines de militants qui est contre le projet d'enfouissement dans la zone de Bure, l'enfouissement des déchets radioactifs. On nous explique que ça sera merveilleux, ça va être beau, il n'y aura pas de problème de sécurité. On peut le remettre en question, ça, et on n'a jamais eu de débat démocratique sur ce sujet. Les décisions ont été prises. L'industrie électronucléaire en France est coincée par ces déchets. Elle produit des déchets qu'elle ne sait pas, dont elle ne sait plus quoi faire. On nous dit, là, je viens d'entendre qu'ils sont en toute sécurité à La Hague. Alors, moi, je veux bien. Alors, si c'est le cas, pourquoi chercher ailleurs? Et puis, le problème dans la Meuse, dans le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Marne, c'est que ce site-là, 500 mètres sous terre, c'est qu'il a une nappe phréatique au-dessus de la couche d'argile, une nappe phréatique en dessous, que la Haute-Marne, c'est le réservoir d'eau, hein, c'est le château d'eau du bassin parisien. C'est aussi la Meuse qui alimente, qui traverse la Belgique et qui va jusqu'aux Pays-Bas. C'est 50 km de Vittel, de Pontrec. Et puis, c'est une zone où on a des failles géologiques. C'est une zone qui est soumise au mouvement de terrain, bien sûr. Et puis, c'est très, très acuifère.
Qu'est-ce que vous mettez en place comme action de lutte dans votre département?
Nous faisons des actions d'information, hein, pour sensibiliser les populations, pour expliquer le crime que représente le projet le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Hein. C'est un crime contre les générations futures. Hein.
Donc de l'information, je crois, au travers d'une maison que vous appelez la maison
de la Résistance,
voilà, qui est située à Bure, que vous avez achetée. Oui. Et donc dans laquelle vous faites de l'information. Oui. Un mot, parce que tout à l'heure nous parlions de combien ça rapportait. Est-ce que maintenant qu'il y a ce laboratoire qui est en cours de développement à Bure, est-ce que c'est génial là-bas? Est-ce qu'il y a l'argent tombe de
Qui avait été annoncé, c'est le développement de la région. Hein. Ce qu'on constate, c'est un vieillissement de la population, une densité qui diminue. Hein, le département de la Meuse, au fil des recensements, perd des habitants. Et puis, voilà ce qu'on peut dire. Alors, ce qui a été fait, c'est des sommes d'argent qui ont été distribuées au département, dans les conseils généraux, pour que les élus fassent accepter l'idée de stockage de déchets par le terme de laboratoire. C'était très longtemps leur discours, c'est oui au laboratoire, non aux déchets radioactifs.
Et donc aujourd'hui,
c'est un laboratoire qui fait de la recherche, qui fait des études, et donc c'était soi-disant joli, quoi. Mm-hmm. Et prometteur pour.
Il y a des déchets à Bure, Marie-Claude Dupuis, ou pas?
Non, il n'y a aucun déchet radioactif à Bure. Comme je dis, ils sont entreposés à La Hague, et si nous cherchons un autre endroit, c'est bien pour protéger, enfin, c'est pour avoir un confinement sur la longue durée. Donc, enfin, permettez-moi quand même d'apporter ma vision et mon analyse par rapport à ce qu'a dit. Monsieur Mimbourg, d'abord, si on est à 500 mètres de profondeur, c'est justement pour éviter les problèmes de voie d'eau et des choses comme ça, hein, donc je conteste bien sûr ce qui a été dit. Il n'y a pas de faille géologique, la couche sur laquelle nous travaillons a 150 millions d'années. Elle est stable depuis plusieurs dizaines de millions d'années, hein, la couche sur laquelle on travaille. D'accord. Donc une couche d'argile.
Et vous allez stocker des déchets qui ont une durée de vie de quelle durée?
Eh bien, ils sont prévus pour y rester, effectivement, oui. Oui.
Donc c'est pas réversible.
La loi nous demande de travailler sur un stockage réversible, donc oui. nous proposerons au gouvernement en 2015, pardon, un dossier sur lequel effectivement nous démontrons que la réversibilité, la réversibilité est prévue, mais elle n'est pas prévue pour des milliers d'années, puisque de toute façon, ce qui fait la sûreté. Mais ce qui fait la sûreté d'un stockage géologique, et ça c'est reconnu au niveau international, c'est justement le confinement apporté par la couche géologique. Donc au bout d'un certain moment, il faut le fermer. Le Parlement a souhaité que nous fassions une demande de stockage réversible pour une durée à minima de 100 ans, et le Parlement a souhaité pouvoir être associé au processus de décision progressive de fermeture. Voilà. En ce qui concerne l'argent...
Donc c'est une pseudo-réversibilité.
C'est de la réversibilité contrôlée par le Parlement, et il y aura une nouvelle loi en 2016 pour préciser les conditions de réversibilité.
Ça veut dire que 100 ans plus tard, ce sera irréversible.
J'ai pas dit non.
Vous nous expliquez que 100 ans après le
la création... Non, la loi dit à minimum 100 ans.
D'accord,
donc
entre 100 et 150.
Pardon de vous couper dans votre conversation. Stéphane Mimbourg, on arrive un peu vers la fin de cette émission. On a d'autres personnes à qui on aimerait passer des coups de fil et puis continuer. Merci de votre intervention. Je crois que vous organisez un festival la fin juin.
Oui, un festival avec des conférences justement sur la non-nécessité sur la nécessité de sortir du nucléaire. Sur le problème des déchets radioactifs à vie longue, à haute activité, à faible activité, et sur les alternatives qu'on propose.
Voilà, et ça se passe à Bure.
Et ça se passe à Luméville, à côté de Bure.
D'accord, merci voilà, Stéphane Mimbourg.
Le 27 juin, 28 juin, l'arrivée des marcheurs pour la paix qui vont à Genève pour dénoncer le scandale de l'AIEA qui a la main mise sur l'ONS, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur l'Organisation mondiale de la santé.
Merci à vous, merci, à bientôt. On va avoir des festivals dans notre beau département comme ceux de Stéphane Mimbourg pour lutter. Comme ça va nous ramener il y a quand même quelques années en arrière. Moi j'ai vécu ça, j'étais petit, mais c'est quand la centrale nucléaire de Golfech est arrivée aussi. Ça,
oui,
ça a remis
il y a la
monde.
Centrale électronucléaire de Golfech. Madame a dit que l'électricité était utile pour tout le monde, d'ailleurs quelle que soit l'origine de l'électricité. Et nous avons aussi le centre de la DRIP, le centre d'enfouissement des déchets, dans lequel viennent beaucoup d'autres départements de la région. Donc nous avons le sentiment de participer à la solidarité sur un certain nombre de questions. Et nous ne voyons pas la nécessité, j'espère que les maires l'entendront, d'ouvrir un nouveau débat, une nouvelle polémique autour de cette question. Nous pensons que les axes sur lesquels nous avons mis le pays Midi-Quercy sont créateurs d'emplois, de richesses, et correspondent à ce que attend la population pour demain, à savoir d'avoir des territoires sains, des nourritures saines, et non pas avoir le doute permanent, parce que le problème nucléaire, c'est le doute permanent instillé sur les conséquences que pourrait avoir et le manque de fiabilité sur le long terme des choses qu'on nous dit, parce que l'erreur est humaine et elle est assez fréquente. Monsieur Hagan a rappelé le centre de la Rogue qui n'est pas très ancien.
Alors j'ai bien compris, autour de cette table tout le monde est plutôt contre. Claude Devezin, vous attendez jeudi soir une réunion du CDD pour discuter justement de ça. Est-ce que il va y avoir de votre part, messieurs les maires, des actions de lobbying vers vos confrères, vers les 33 maires du département, pour les inciter à dire non à cette présélection?
Nous ne sommes pas des militants, nous ne sommes pas des gens qui... Moi, en tant que président de Midi-Quercy, à la prochaine réunion de...
Jeudi soir à Verfeuille-sur-Seille, hein, c'est ça?
Le syndicat mixte, nous informerons le maire de cette demande et nous dirons ce que nous avons tous dit aujourd'hui. C'est le manque de cohérence d'un tel centre par rapport à ce que nous avons développé comme projet de développement du territoire. Mmh.
Mais si un des 33 maires du département dit OK, qu'est-ce que vous pouvez faire après?
Ah ben, si un maire dit OK, on peut rien faire. Enfin, il faudra quand même que madame commence à faire les études. Parce qu'on peut attirer des gens avec la carotte. Il y a aussi...
Et l'argent tombe dès qu'on peut faire les études. L'argent tombe pas tout de suite dès qu'on dit OK. Non,
il y a des gens.
Je croyais.
Il y a des gens qui sont...
Nous voulons une démarche très progressive. Et il y aura toute une procédure d'autorisation. Enfin, toute la démarche est très, très progressive.
Il y a des gens qui sont pauvres et qui donnent leurs organes aussi. Est-ce qu'on doit aller exciter les gens qui sont pauvres pour mettre les installations qu'ils ne souhaitent pas?
Merci d'avoir été avec nous, Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l'ANDRA. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité. J'ai pu m'exprimer, donc rien que pour ça, je vous remercie.
Merci à vous. Je vais vous demander, messieurs, peut-être un tour de table de conclusion. On commence par le conseiller général du canton de Saint-Antonin, monsieur Rénal, peut-être.
Oui, je crois qu'on me l'a très bien expliqué, donc Jean Cambon, il y a un manque de fiabilité et surtout une absence de cohérence entre notre projet de politique environnementale basé sur le tourisme vert, sur les stations de remise en forme de nature et ce doute qui persistera sur cet enfouissement des déchets radioactifs dans notre terroir.
Monsieur Maffre.
Oui, alors moi je suis encore plus inquiet que tout le monde, dans la mesure où chez nous on a 5500 hectares qui appartiennent à l'État. Donc ouais. Je veux dire que les maires, ils n'auront même pas besoin de se déterminer. Personne n'aura besoin de se déterminer. La chose sera faite. Donc moi c'est encore une autre démarche. Je partage tout à fait ce qui a été dit, ce qu'a expliqué Jean Cambon, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai peur que, si vous voulez, j'arrive pas à croire que tout soit arrivé le même jour. Donc il va falloir qu'on m'explique pourquoi que cette demande d'enfouissement n'est rien à voir avec le cas militaire. Voilà, tu vas m'avoir expliqué ça.
Ça n'a rien à voir, ça je peux vous le confirmer.
Vous pouvez me confirmer. C'est
une coïncidence, et il y a d'autres départements de France qui sont concernés par des fermetures potentielles.
Est-ce que tous les sites que vous avez, enfin vous avez peu de sites apparemment, et ce sont des sites qui appartiennent à qui?
Mais on n'a pas les sites n'appartiennent pas. On a fait la carte biologique, on a regardé quelles étaient les maires concernées. D'accord. Et j'avais pas repéré moi personnellement le camp militaire, pour tout vous dire. Donc nous, dès qu'on aura des...
Ça y est, maintenant c'est fait, vous l'avez repéré.
Voilà.
Léopold Viguier.
Question. Rémi.
Oui, j'allais vous donner la parole
Moi j'aurais voulu savoir, parce que il semble que ce soit un tri géologique. On regarde la carte de France du BRGM et puis on se dit, tiens, là il y a pas mal d'argile. Il y a beaucoup d'autres endroits en France où il y a pas mal d'argile. Alors j'aurais voulu savoir si on pouvait nous dire quels étaient les autres secteurs géographiques en France, les autres communes ou les autres communautés de communes ou pays qui ont été sollicités.
Mais il y a 3000 communes, il y a 8 régions de France concernées, ça fait une vingtaine de départements, et on trouvera les régions, enfin la carte géologique, on la mettra sur Internet au début de semaine prochaine. On a préféré quand même informer personnellement les maires avant qu'ils apprennent dans le journal qu'ils étaient concernés. Voilà. Et tout sera rendu public, mais je vous dis, il y a...
Et combien vous faut-il de sites en France?
Il nous en faut un.
Il en faut qu'un. On peut peut-être passer entre les gouttes, alors. Qu'est-ce que vous en pensez, Léopold Viguier, conseiller général de Caylus?
Bon, s'il en faut qu'un, on essaiera de faire en sorte qu'il ne soit pas chez nous. Parce que si on a bien entendu, bon, tout va bien, c'est comme l'amiante, bon, tout allait bien, il n'y a aucun risque. Mais il faut savoir que le maire qui s'engage, il ne s'engage pas pour lui-même, il s'engage pour l'ensemble des collectivités qui l'entourent, il s'engage pour le département, et il s'engage aussi pour des centaines, je dirais, de générations. Donc ça veut dire qu'avant de voir uniquement le côté financier, il faudra qu'il réfléchisse bien à l'avenir de toute une région.
Gérard Hagan.
Eh bien, tout a été dit. Hein. Je demeure persuadé que ceci est un mauvais projet, toujours pour le pays Médicercy dans son ensemble, bien entendu, et Saint-Antonin aussi en particulier, qui n'a pas du tout cette politique, qui a fait les efforts nécessaires pour conserver une nature saine et viable et durable.
Claude Devezin, vous avez été avec nous pendant toute la durée de cette émission. Vous n'avez pas beaucoup pris la parole. Vous avez le recul nécessaire à la conclusion.
Je ne me permettrai pas de conclure parce que j'ai aucun titre pour ça.
Habitez le secteur.
Que ceux qui sont autour de la table. Et la seule chose que je voudrais signaler, c'est que je pense, je suis même certain, j'allais dire j'espère, mais je suis certain, que le conseil de développement donnera un avis travaillé et circonstancié. Alors au-delà de l'aspect d'incohérence que soulevait Jean Cambon, de façon tout à fait pertinente, je pense qu'on doit pouvoir également donner un avis circonstancié. Nous recueillerons les informations pour ça. On a dans notre sein des personnes ressources. On ira éventuellement en chercher ailleurs. Et tout ce que je peux te demander, et c'est une occasion de signaler que le conseil de développement, c'est utile, ça fonctionne, ce sera une façon de voir comment il fonctionne, et ce sera une façon d'y participer jeudi prochain à partir de 21h à la salle des fêtes de Verfeil.
Merci Claude Devezin, je laisse donc au président du pays Médicercy une courte conclusion. Jean Cambon.
Écoutez-moi, si vous me permettez, elle sera un peu marginale, mais pour dire que je me réjouis que les participants autour de cette table, maire de Saint-Antonin, conseiller général du Caylus, maire de Caylus et le conseiller général de Saint-Antonin, sont en tout point d'accord. Ça me semble être montre également la cohérence des hommes avec le projet de territoire, et je ne doute pas que l'ensemble des maires du pays Midi-Quercy suivra, non pas les conseils, nous n'avons pas en donné, mais la conception qui résulte de ce qui a été exprimé. Et nous n'agissons pas pour l'argent, on nous reproche souvent d'être intéressés, on nous agissons pas pour l'argent. Léopold a indiqué que nous aurions le sentiment de nous engager pour des générations à venir. Nous ne voulons pas le faire sur des bases aussi... ténues, aussi peu précises que celles qui nous ont été présentées.
Merci à vous, messieurs les maires, conseillers généraux. On n'a pas réussi à joindre Raymond Massip au téléphone. Il était sur répondeur, sans doute encore dans une réunion. Mais il souhaitait être avec nous ce soir. Merci à Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l'ANDRA, d'avoir accepté de passer une heure en notre compagnie. Et puis aussi à Stéphane Mimbourg de Bure Zone Libre qui vous propose son festival à Bure, dans la Meuse et la Haute-Marne, enfin c'est à cheval. Merci tout le monde, au revoir.